Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. La mémoire de la Shoah a une histoire. Elle commence au lendemain de la découverte des camps, en particulier celui d'Auschwitz, par la mobilisation d'une poignée de militants qui pose les bases d'un récit difficilement audible et compréhensible. Elle s'incarne d'emblée par des commémorations et un engagement dans la société. Mais cette mémoire dominante est d'abord celle de la résistance et des résistants. Pourtant, en trois décennies à peine, 1960-1990, la mémoire de la Shoah va s'imposer et devenir universelle jusqu'à se voir reprocher aujourd'hui d'être omniprésente. C'est cette histoire que va nous raconter Olivier Lalieux, qui est notre invité aujourd'hui.
Bonjour
Olivier Lalieux, vous êtes historien au Mémorial de la Shoah, responsable des lieux de mémoire et des projets spéciaux. Vous êtes membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et votre intérêt pour ce sujet remonte à loin, puisque vous avez fondé en 1987 à Saint-Germain-en-Laye, vous aviez donc 15 ans si j'ai bien compté, la Semaine contre l'oubli, parrainée à l'époque par Serge Klarsfeld, Simone Veil et Elie Wiesel. Je précise que votre livre, qui s'intitule « Histoire de la mémoire de la Shoah », est le premier d'une nouvelle collection qui s'appelle « Histoire de la mémoire », dirigée par Serge Barcellini et qu'il est publié aux éditions Soteca. Alors, votre livre est composé de 4 chapitres que je vais vous lire je vous propose qu'on suive cet ordre chronologique. Donc, il y a d'abord le temps de la libération, une mémoire en devenir, le temps de l'affirmation et enfin une reconnaissance fragile. Alors, commençons par la libération. Les déportés reviennent, mais parmi eux, parmi les déportés, qui sont eux-mêmes une minorité parmi... la masse des rapatriés, il y a donc très peu de juifs. Hein. Commençons par là, peut-être.
Il faut effectivement partir de ces quelques éléments factuels et qui, en même temps, résument à eux seuls la tragédie dont sont victimes les juifs d'Europe. C'est le résultat de ce génocide perpétré par les nazis, c'est que sur les 76 000 déportés juifs de France, eh bien environ 3 000, 3 500, peut-être un tout petit peu plus, rentrent ou regagnent la France... par des moyens toujours très, très difficiles, très laborieux. Notre pays, entre la fin de l'hiver et le début de l'été 1945. C'est une infime minorité, parmi les déportés politiques, résistants qui rentrent, environ 50 à 60 000. Et puis, c'est aussi...
Sur 80 000 à peu près au départ, hein, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions déjà.
On est sur ce qu'a été ce terrible régime concentrationnaire, mais dont la finalité n'est pas l'extermination délibérée des individus, au même titre que ces juifs, et pour certains des déportés de Tzigane qui sont déportés par familles entières pour être assassinés dans le cadre de ce génocide. Ces déportés, pour reprendre le vocable de l'époque, l'appellation de déportés ratio qui est alors en vigueur en 1945 pour qualifier les juifs, a depuis disparu, puisque vous le savez, depuis les grandes lois qui, dans le droit français, fondent le droit à réparation pour les déportés, il n'existe plus aujourd'hui que deux catégories juridiques, les déportés résistants et les déportés politiques, parmi lesquels sont intégrés les victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces déportés-là, ces rescapés, au statut et au parcours très différents, ne sont eux-mêmes qu'une infime minorité parmi ceux qu'on appelle les absents, et dont a en charge le ministère Freinet. Ce sont plus d'un million de prisonniers de guerre, ce sont près de 850 000 requis du service du travail obligatoire qui ont eux-mêmes... dans des circonstances là encore très différentes, quitter le territoire national depuis plusieurs années et dont il faut assumer dans cette France en reconstruction, traumatisée par ces années de guerre, déchirée aussi par ces conflits qui ont amené le régime de l'État français et sa politique fondée sur la xénophobie, mais aussi sur l'antisémitisme, et bien que cette poignée, cette minorité dans la minorité, va devoir trouver son propre chemin pour exprimer ce qu'a été son calvaire, pour rendre hommage à ses disparus, mais aussi pour faire entendre sa voix.
Alors, au début, dans l'après-guerre, la plupart des discours, dites-vous, ne distinguent pas vraiment les différentes catégories de déportés, comme vous l'avez dit. et n'isole que très rarement les crimes commis contre les Juifs. Hein. Et vous dites d'ailleurs que le terme un peu, on va dire, à la mode à l'époque, c'est le terme de camp de la mort, qui est flou et qui met dans, qui confond à la fois système concentrationnaire et centre de mise à mort des Juifs. On ne sait pas encore à l'époque, on ne distingue pas ou on ne veut pas distinguer, je ne sais pas, les différentes... le sort spécifique des Juifs.
Oui, cette affaire, elle est tout autant liée à l'ignorance qu'à l'occultation ou au refoulement. Mais en tout cas, le fait est, mais ce faisant, je ne fais que m'inscrire dans les pas des travaux pionniers en France, en particulier, et tout particulièrement d'Annette Wiewiórka. Dans la France de 1945, effectivement, le destin des déportés est plutôt envisagé sous un angle qui vient fondre le destin des uns et des autres. La distinction entre les victimes du génocide, ce mot qui a été forgé quelques mois et qui n'existe pas véritablement encore, puisqu'il ne sera reconnu que plusieurs années plus tard par l'Organisation des Nations Unies. Donc le mot n'existe pas. En revanche, et là encore, il faut être attentif aux nuances. Toute cette affaire de l'histoire de la mémoire de la Shoah, elle est aussi affaire de nuances et on doit plutôt se prémunir des grandes généralisations au risque de passer parfois à côté de l'essentiel. C'est un fait, et il faut le redire encore, que le destin des Juifs n'est pas perçu dans sa spécificité. Il n'en demeure pas moins que dans les récits d'un certain nombre de rescapés, par exemple de ceux qui déportés résistants au camp de Buchenwald, le second camp où nos compatriotes ont été envoyés durant la Seconde Guerre mondiale après Auschwitz-Birkenau, déportés résistants, déportés politiques, otages aussi. C'est un camp où beaucoup de ceux des Juifs survivants d'Auschwitz-Birkenau vont transiter, vont passer, parfois quelques jours avant d'être acheminés vers d'autres camps, parfois de manière plus longue dans le petit camp de Buchenwald. Des connexions existent par le biais de la résistance clandestine. Et dans certains témoignages, insistent d'emblée, ils sont y compris repris dans la presse de l'époque, sur une forme de hiérarchie qui existe dans les camps. Le régime de Buchenwald, les rescapés le disent, et c'est attesté par l'histoire, le régime évidemment de Buchenwald n'est pas le régime d'Auschwitz-Birkenau, et encore moins celui des centres de mise à mort. Mais il y a donc par ces quelques rescapés qui transitent, qui basculent de la Shoah, de ce camp si singulier qu'est Auschwitz-Birkenau, vers l'univers concentrationnaire et Buchenwald, eh bien il existe malgré tout dans le récit un certain nombre de nuances et qui font que déjà, peut-être de manière très lacunaire, effectivement de manière très isolée, mais malgré tout, des distinctions s'opèrent entre le sort des uns et le sort des autres. Il y a aussi une récupération par les cadres de la mémoire de la déportation, qui sont eux aussi des pionniers, qui vont fonder les grandes fédérations d'anciens déportés, qui insistent sur ce grand tout que forme la déportation, ce grand tout où en même temps émergent comme figure dominante les résistants, c'est-à-dire les déportés résistants, c'est-à-dire ceux qui ont payé le prix du sang, le prix de l'extrême souffrance de leur engagement patriotique. Ceux-là sont les cadres du mouvement déporté, mais ceux-là portent une vision malgré tout globalisante, dont ils forment l'élite, mais une vision globalisante, c'est-à-dire qu'ils associent l'extrême mortalité, c'est-à-dire en vérité ces crimes contre l'humanité perpétrés sur les Juifs dans le cadre du génocide, eh bien, ils tentent à l'assimiler au sort commun des déportés en ayant cette métaphore, cette image que les déportés, le sort des déportés finalement se confond dans la fumée des crématoires, quelle que soit l'origine de leur déportation.
Oubliant aussi par là même non seulement le sort spécifique des Juifs, l'extermination, mais la persécution aussi, qui est finalement tout le régime de persécution antérieur à la déportation qui, à cette époque-là, est occulté.
Il est occulté, en tout cas, il n'est pas mis au rang des priorités. Il faut là encore essayer de prendre, non pas de la distance, parce que ce sont des sujets... comme le disait le professeur Joseph Mélès dans la conférence inaugurale du séminaire d'histoire de la Shoah qu'avait fondé André Caspi à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est une histoire qu'il nous faut appréhender avec rigueur et bienveillance par sa nature même. Ce que je veux dire, c'est que La France, l'Europe a été victime de ces années de guerre et la souffrance des déportés qu'on voit aujourd'hui s'agissant des victimes de la Shoah comme la figure la plus éminente à l'époque, elle est elle-même sans doute noyée par la souffrance des victimes des bombardements. Je ne lis pas le sort des uns et des autres, je dis que un grand nombre de Français, d'Européens ont été victimes à des nuances et avec des figures très diverses de cette Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs, on a commémoré ce 70e anniversaire de ce qu'on appelle avec toutes les guillemets possibles la libération des camps. Au premier témoignage que ces rescapés formulaient dans leur famille, beaucoup s'entendaient opposer la propre souffrance des membres de leur famille qui, elles-mêmes, avaient été victimes du rationnement, de la peur et des bombardements. Donc il y a une profonde, finalement, méconnaissance et en même temps perméabilité à ce qu'avait pu être pour le plus grand nombre cette souffrance dans les camps.
Alors vous avez parlé tout à l'heure des associations de rescapés, peut-être que vous pouvez en dire un mot. Il y a l'Amicale d'Auschwitz d'un côté, l'Association des anciens déportés juifs de France de l'autre, qui ont des spécificités, mais qui sont quand même toutes les deux dans la sphère d'influence du Parti communiste, hein, ce qui aussi entrave hein, l'affirmation d'un destin singulier des Juifs.
Ces fondements du mouvement déporté sont effectivement profondément influencés par la mouvance communiste qui est très présente dans la plupart de ces organisations. En réaction, d'autres organisations vont être créées pour contrer cette influence. Mais en vérité, parmi les déportés rescapés, le petit nombre de rescapés rescapés d'Auschwitz, le plus grand nombre vont s'inscrire dans les pas de ces deux organisations. Pour l'une, l'Amicale d'Auschwitz, qui va s'attacher à rassembler autour des trois convois de déportés non-juifs les rescapés d'Auschwitz, mais avec cette spécificité qu'elle va mettre en avant dans ses instances et dans son discours le destin des victimes juives et des victimes non-juives déportées de France. Et ces victimes non-juives déportées à Auschwitz sont une extrême minorité. Elles ne sont absolument pas représentatives de ce qu'a été le destin de la masse des déportés de France à Auschwitz. Et pourtant, elle aura, cette minorité aura une place prééminente dans le discours jusqu'aux années 50 ou 60 et à l'image d'ailleurs de l'évolution globale de la société. Au sein de l'Amicale, de l'Association des anciens déportés juifs de France, à la tête de laquelle on retrouve Naum von Stein et Henri Bulafko, on est davantage dans une organisation extrêmement ancrée dans le monde yiddishophone. Hein, et donc, il n'y a pas tant une opposition politique entre les deux organisations, mais plutôt une différence culturelle, sociologique, parmi les gens qui la fondent, même si ils se retrouvent très fréquemment dans des actions communes ou dans des commémorations qui, très précocement, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, commencent à être tenues en France.
Alors, il faut attendre le tournant que constitue l'année 67 à double titre, c'est-à-dire à cause de la guerre, la guerre des six jours et aussi la situation en Pologne et l'antisémitisme en Pologne, pour que les choses changent et qu'on passe dans ce que vous avez appelé le temps de l'affirmation. Si vous êtes d'accord avec ça,
cette affirmation,
cette césure de 67.
Elle a été progressive. Et je crois que là, je cite en conclusion de l'introduction les quelques mots de Jacques Le Goff qui, à propos du Moyen-Âge, nous incitait à une grande prudence sur les barrières chronologiques trop strictes. Pour dire qu'il y avait eu quand même une longue maturation dans cette affirmation, dont, par exemple, la création du Centre de documentation juive contemporaine et du mémorial du martyr juif, du tombeau du martyr juif inconnu dont la première pierre est posée en 1953, le mémorial lui-même est inauguré en 1956, ont été des jalons tout à fait importants. En revanche,
puisqu'on va parler du mémorial de la Shoah, comme c'est l'ancêtre du mémorial de la Shoah, on va en reparler.
Alors tout va bien. Dans cette maturation, dans cette prise de conscience progressive, dans cette affirmation, il y a à la fin des années 50 et au début des années 60 une évolution qui se dessine, une évolution en France, mais plus encore une évolution internationale, et notamment en Allemagne. La perspective de la prescription des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale fait, dans un certain nombre de sociétés à la fois européennes, mais par correspondance et dans un contexte tout à fait différent, la capture d'Adolf Eichmann et bien sûr son jugement en Israël au début des années 60 s'inscrivent dans une période où, si des procès avaient été opérés après la Seconde Guerre mondiale, la prise en compte de la persécution et de l'extermination des Juifs y avait été peu présente. En revanche, dans ces débats autour de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la spécificité des crimes commis contre les Juifs va prendre une place centrale dans ces procès tardifs, que ce soit évidemment dans le procès Eichmann, mais aussi dans ces procès qui vont se dérouler au cœur du continent européen, en Allemagne, le procès de Francfort entre 63 et 65, qui s'inscrit lui-même dans une série de procès tenus en République fédérale allemande au début des années 60, dans cette perspective de la prescription et de tous les débats qui vont être tenus en Europe, mais aussi à l'échelle internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, qui vont finalement aboutir à l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Donc il y a une dynamique nouvelle. Il y a à la fois sans doute une dynamique générationnelle, une dynamique culturelle et une dynamique juridico-politique qui font qu'il y a une actualité nouvelle dans ces crimes commis contre les Juifs, des crimes qu'on connaît mieux, des crimes aussi sur lesquels des œuvres culturelles, des œuvres littéraires, des œuvres artistiques puissantes vont également contribuer à donner corps.
Cette dynamique générationnelle dont vous avez parlé, elle s'incarne notamment dans le couple Klarsfeld et la fondation des fils et filles. Mais là, peut-être que je vais trop vite.
Alors, je ne sais pas le temps qui nous reste et donc on va s'adapter. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette dynamique générationnelle, elle est prégnante s'agissant de la mémoire de la Shoah parce que cette histoire, nous l'avons vu, elle est l'affaire d'une poignée de fêtes de rescapés. Ça veut dire que celles et ceux qui sont en situation d'être les porteurs de cette mémoire ne peuvent être de fait que les membres de ces familles, au premier chef, de ces familles qui ont pu survivre. Et cela, c'est vrai pour les victimes de la Shoah, mais c'est vrai aussi pour les déportés d'une manière générale pendant de nombreuses décennies, vont avoir une difficulté à se fondre pleinement dans les organisations créée à partir de 1945 autour des rescapés. Ces organisations vont tenter, autour de cette décennie des années 60, de s'ouvrir à cette seconde génération sans que la greffe, pardonnez-moi cette expression, elle est maladroite, ne prenne réellement alors. C'est donc finalement en dehors des organisations traditionnelles, malgré les tentatives qui avaient été faites, c'est en dehors de ces organisations, et en France tout particulièrement, et même je dirais singulièrement, autour de l'œuvre entamée d'abord individuellement, d'abord solitairement par Serge et Beat Klarsfeld, d'abord en Allemagne et aussi en France, qu'une nouvelle génération va prendre corps autour de cette association des fils et filles des déportés juifs de France, fondée en 1979 et qui va jouer un grand rôle pour soutenir l'action à la fois historique que menait Serge et que mène Serge Klarsfeld, mais qui est également un mouvement militant pour soutenir ces actions, pour bousculer les conservatismes et les frilosités de sociétés en Allemagne comme en France qui refusaient pour beaucoup d'entrevoir et d'où de réouvrir le dossier de la responsabilité de ces pays dans la persécution et l'extermination des Juifs d'Europe.
Alors là, je vais chausser des bottes de 7 lieues, mais il faut qu'on en vienne à la reconnaissance, on va dire, officielle. On en vient donc à la reconnaissance officielle qui arrive, donc je ne sais pas de quand vous la dateriez.
La reconnaissance officielle, elle est d'abord incarnée par cette déclaration historique du président Jacques Chirac de juillet 1995, à travers laquelle la République, la France, reconnaissait son rôle dans la persécution des Juifs de France. Et c'est une déclaration pionnière qui venait prendre à contre-pied la tradition fondée dès l'après-guerre, reprise par le général de Gaulle et dans laquelle le président François Mitterrand s'était également inscrite. C'est une reconnaissance d'un rôle en France, d'un contexte particulier, mais qui, dans un autre contexte, sera également porté sur le plan international en 2005, en novembre 2005, par cette instauration d'une journée internationale pour la mémoire des victimes de l'Holocauste par l'Organisation des Nations Unies. Pour en arriver à ces deux déclarations, à la fois en France, il aura fallu à la fois cette mobilisation autour de ces générations dont les efforts se sont agglomérés, ceux des rescapés comme ceux autour des fils et filles des déportés juifs de France, pour que le dossier judiciaire soit réouvert, que le droit à réparation s'adapte également. Et la déclaration de Jacques Chirac en 1995 va permettre justement un réexamen sur le plan du droit à réparation, avec notamment l'instauration de la commission dite Mattéoli, qui elle-même va déboucher sur la création en 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mais il aura également fallu sur le plan international une dynamique, puisque l'évolution française qui est à la fois très spécifique par cette difficulté de la France de regarder son chemin et la spécificité de son rôle durant la France des années noires, mais elle s'inscrit également dans un contexte européen et dans une dynamique internationale qui aboutit à la conférence de Stockholm en 2000, où participent de très nombreux États, non seulement européens, mais également d'autres continents, pose les jalons de cette reconnaissance internationale dont la déclaration de 2005 est l'aboutissement. Au-delà de ces déclarations officielles, il faut avoir conscience que c'est une dynamique qui reste fragile. C'est un mouvement qui s'inscrit à la fois et qui doit être défendu à la fois sur le plan militant et on le voit sur le plan politique également, sur le plan éducatif. Ce mouvement également s'inscrit dans le contexte de la disparition inéluctable de celles et ceux qui furent les contemporains de ces tragiques événements ou qui, par ricochet, en ont été les témoins et les victimes autour de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc une évolution des générations, une évolution des pratiques mémorielles aussi, et à ce titre, le centenaire de la Première Guerre mondiale ou le centenaire du génocide des Arméniens montre qu'il est possible de continuer à la fois à enseigner, à transmettre et à réfléchir sur des événements qui sont maintenant distants de plus d'un siècle.
Vous allez donc écrire la suite, à nouvelle histoire, nouvelle mémoire, pour reprendre le titre d'un article d'Yvan Jablonka.
Yvan Jablonka, qui est l'un des nouveaux maillons de cette chaîne, à la fois par ses travaux d'historien et puis par son œuvre littéraire extrêmement, extrêmement intéressante et puissante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire de la mémoire de la Shoah se voulait un maillon entre ces différentes chaînes du souvenir, un travail, très, très, très humble et qui, je le sais, mérite et méritera d'être repris et complété.
Merci Olivier Lalieu, c'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.